Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, l'Évangile aujourd'hui nous parle d'un débiteur insolvable. Une belle parabole de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut comprendre. Voilà un roi qui un jour vient demander des comptes à ceux de ce royaume qui lui devaient de l'argent. Un homme se présente à lui qui lui devait une fortune, 10 000 talents. Alors, comme il n'avait rien pour rembourser, le maître, le roi, ordonne qu'il soit jeté en prison, lui et sa famille, jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Alors, il se jette à genoux au pied de son maître et demande qu'on lui pardonne. Et le maître, dans sa bonté, va lui pardonner. Alors, la personne quitte donc la prison et trouve quelqu'un qui lui devait une somme dérisoire, 100 deniers, nous dit l'Évangile. Et ayant complètement oublié qu'il venait d'être pardonné pour un crime bien plus grave, eh bien il saute au cou de cette personne, menace de le mettre en prison, il le met en prison justement parce que celui-là, le fait mettre en prison parce que celui-là refuse de payer, il ne peut pas payer tout de suite. Donc il y a deux grandes idées que notre Seigneur Jésus-Christ nous explique par ces paraboles. Première, c'est l'importance de la miséricorde. Puisque ce roi, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième idée, c'est la nécessité de la gratitude. Je voudrais vous parler de ces deux choses. Parce que Dieu sait si nous avons besoin de ces deux choses. Première, c'est comprendre l'immensité de la miséricorde du bon Dieu à l'égard du pécheur repentant. Quand on étudier un petit peu l'Évangile, on est frappé du nombre de paraboles sur ce sujet-là. On sent que pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose de très important parce qu'il se rend bien compte que malheureusement, à cause du péché originel, on tombe tous dans le péché, bien souvent, et que notre Seigneur Jésus-Christ est obligé d'utiliser constamment sa miséricorde. Sinon, il n'y a pas grand monde au ciel, à part notre Sainte Vierge Marie. Alors, ce roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes un débiteur, on a un compteur en quelque sorte, et à chaque fois qu'on commet un péché, on rajoute quelque chose sur le compteur. Et peut-être que pendant des années, on a rajouté des pierres dans notre sac, et le bon Dieu vient nous demander des comptes. Et comme nous ne pouvions pas tout payer, nous sommes jetés aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui demander pardon, parce que nous faisons confessionnal. Et le bon Dieu nous pardonne. Le bon Dieu nous pardonne et il exerce sa miséricorde à l'égard du pécheur repentant, même de celui qui retombe tout le temps. Imaginez une mère de famille qui a un enfant qui fait des bêtises, elle pardonne. Et si l'enfant fait ses bêtises tous les jours, elle pardonne toujours, à condition que l'enfant fasse un minimum d'efforts. Mais si l'enfant ne fait pas un minimum d'efforts pour se corriger de ses défauts, la maman ne pardonne pas. Bien, le bon Dieu est comme une bonne mère pour nous, il nous pardonne à condition qu'on regrette. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le point important pour moi, c'est que cette miséricorde du bon Dieu ne s'exerce que si on ouvre la porte de cette miséricorde. Quelque chose qu'on a du mal à comprendre. On a l'impression que la miséricorde du bon Dieu, c'est quelque chose d'un peu automatique, s'exerce systématiquement. Non, c'est pas comme ça. Le bon Dieu exerce sa miséricorde à condition qu'on accepte les conditions d'usage de cette miséricorde. Vous allez me dire, c'est un peu un cercle vicieux, parce que pour ouvrir la porte à la miséricorde du bon Dieu, il faut aussi des grâces actuelles du bon Dieu. C'est vrai, mais c'est là tout le mystère, c'est un mystère insondable, c'est certainement un des plus grands mystères du christianisme. C'est que la grâce du bon Dieu est toute puissante, mais bien qu'étant toute puissante, cette grâce du bon Dieu respecte notre libre arbitre, respecte notre volonté propre. Donc le bon Dieu demande, veut exercer sa miséricorde à notre égard, mais en même temps il exige que nous ouvrions la porte de notre cœur pour pouvoir utiliser les grâces de cette miséricorde. Et puisque nous ne pouvons pas ouvrir la porte de notre cœur à cette miséricorde par nos propres forces, il nous donne encore des grâces actuelles pour ouvrir cette porte. Mais dans ce processus, notre liberté est respectée. C'est là où le mystère, c'est quelque chose d'incompréhensible. Alors, je voudrais, en prenant tout simplement les textes du catéchisme du Concile de Trente et du catéchisme de Saint-Pilice, vous expliquer rapidement des choses que vous savez déjà, mais nous rappeler quelles sont les conditions pour que nous puissions utiliser cette miséricorde? Première des conditions, évidemment, c'est d'avoir la douleur de nos péchés. Si je n'ai pas la douleur de mes péchés, je ne peux rien demander au bon Dieu. Et dans son catéchisme, l'Église utilise deux mots qui me semblent très importants pour déterminer les qualités de cette douleur, parce qu'elle définit bien les choses, elle donne les détails. Pour déterminer les qualités de cette douleur de nos péchés, l'Église va utiliser deux termes. D'abord, elle explique que cette douleur doit être surnaturelle. Elle doit être aussi souveraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Surnaturelle, ça veut dire que cette douleur doit être provoquée, on retrouve le même mystère, elle ne peut pas être une douleur purement naturelle. Il faut qu'elle soit surnaturelle, provoquée par une grâce, au moins une grâce actuelle de Dieu. Très souvent, on regrette ses péchés pour des raisons naturelles. Ça arrive très souvent. Imaginez quelqu'un qui a, je sais pas moi, un soir trop mangé, trop bu, donc il est malade toute la nuit, et puis le lendemain, il regrette ce qu'il a fait parce qu'il était malade toute la nuit. Bon. C'est un regret de ce qu'il a fait, bien sûr, mais c'est un regret purement naturel. D'accord ? Imaginez un époux qui a offensé son épouse ou l'inverse pour une chose plus ou moins importante, et ils se font la tête tous les deux, donc ils en souffrent. Donc ils regrettent ce qu'ils ont fait parce qu'ils sentent que ça a créé un malaise entre les deux. Et c'est encore des regrets purement naturels, tout ça. Pouvoir s'accuser au confessionnal de ses fautes, d'avoir trop mangé, de s'avoir été impatient avec son époux ou son épouse, il faut que cette douleur soit surnaturelle, fruit de la grâce du bon Dieu. Le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce, à qui il lui demande avec humilité, c'est vrai. Mais il faut faire attention parce que si on ne demande pas ses grâces, on risque de ne pas les recevoir. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément, demandez, frappez, cherchez. Sous-entendu, si on ne demande pas, si on ne cherche pas, si on ne frappe pas, on n'a rien du tout. Le deuxième mot utilisé par Concile de Trente pour définir cette douleur, c'est la douleur doit être souveraine. Ça veut dire quoi, souveraine? Ça veut dire que le degré de douleur qu'on a parce qu'on a perdu le bon Dieu ou offensé le bon Dieu doit être supérieur à la douleur qu'on a parce qu'on a perdu une chose matérielle même importante. Et ça, encore une fois, c'est pas facile à faire. Imaginez que vous ayez mis vos économies dans un tiroir, et puis la maison, cachée sous un oreiller, je ne sais pas trop où, et puis au moment où vous avez besoin d'argent, vous essayez de retrouver votre argent, vous rendez compte que quelqu'un est passé par là, un voleur est passé, a volé vos économies. C'est une catastrophe. Mais vous allez en avoir une agressivité, si vous voulez, peut-être pendant des semaines et des semaines. Au contraire, imaginez que vous sortez du confessionnal dans un état de grâce, bon Dieu vous a pardonné vos péchés, nous a pardonné nos péchés, ça voilà pour moi aussi. Et puis quelques jours plus tard, on recommet un péché grave. Bon, souvent, on perd la paix intérieure pour quelques minutes, c'est tout, puis on oublie. Et parfois, c'est sidérant de voir certaines personnes qui sont capables de rester dans un tas de péchés mortels pendant parfois des mois, alors qu'ils ont la possibilité de se confesser, et ils ne se confessent pas, ils attendent une occasion, une grande fête. Vous voyez ? Donc, il faut demander au bon Dieu pour pouvoir justement utiliser sa miséricorde qui se déploie devant nous. Pour faire rentrer de la miséricorde dans le cœur, il faut avoir d'abord sa première condition, c'est justement cette douleur qui soit surnaturelle et en même temps souveraine. Mais ça ne suffit pas. Le catéchisme nous dit, il faut aussi, en plus, il faut le faire en propos. Faire propos, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de prendre les décisions pratiques qui s'imposent pour ne pas retomber, même si on sait qu'à cause de notre faiblesse personnelle, on risque de retomber. C'est-à-dire qu'il faut prendre certains moyens, pratico-pratiques, pour se protéger et éviter de jouer avec le feu, sinon on tombe dans un péché qui s'appelle le péché de présomption. Le péché de présomption, ça veut dire que je garde dans ma vie de tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché. Si je garde cette occasion, imaginez quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a par exemple un problème de boisson. Il boit trop. Il le sait, il sait qu'il ne faut pas qu'il garde de l'alcool chez lui, parce que s'il garde de l'alcool chez lui, il va trop boire, surtout quand il est seul, il se décourage, il commence à boire. Donc il va s'accuser au confessionnal de tomber régulièrement dans l'ébriété. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi, puisqu'il connaît sa faiblesse, il faut qu'il ne garde pas d'alcool chez lui, c'est du bon sens élémentaire. S'il garde de l'alcool chez lui, il sait qu'il retombe à tous les coups. Donc il joue avec la grâce du bon Dieu. C'est l'hypocrisie. Et donc, le bon Dieu, dans ces cas-là, ne va pas exercer sa miséricorde tant que je ne rajoute pas à cette douleur surnaturelle et souveraine. En plus de ça, il faut que je rajoute justement ce ferme propos d'éviter les occasions qui me mènent au péché. Et on l'oublie aussi, il y a une troisième condition, on en parle le catéchisme du Concile de Trente. Ce qu'il faut aussi, avec ça, il faut la réparation. Il faut réparer. On a offensé le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. On a offensé le cœur de Notre-Dame. Il faut réparer d'une façon ou d'une autre. Imaginez un époux qui était impatient avec son épouse, par exemple. Bon, il s'est impatienté pour une raison ou pour une autre. Ou peut-être même pour une raison qui peut être valable, mais il n'avait pas de raison de s'impatienter, il s'est impatienté. Bon. Il ne s'agit pas seulement de lui dire, bon, je te demande pardon. Ça ne suffit pas. Ben, le lendemain, il va embrasser tendrement son épouse le matin pour lui demander pardon, puis il va faire un effort, il va peut-être marquer justement son regret de ce qu'il a fait la veille par un petit geste, un petit service à rendre à son épouse qu'elle lui demande depuis peut-être des mois qu'il n'a prétendu jamais avoir le temps de faire, ou il va lui offrir des fleurs ou quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle la réparation. Et bien la catéchisme du Concile de Trente insiste sur cette réparation. Alors certaines personnes me disent, mais monsieur l'abbé, on est obligé de réparer que lorsque c'est un péché contre la vertu de justice. On oublie une chose, c'est que tous les péchés sont des péchés contre la vertu de justice. Qu'est-ce que c'est que la vertu de justice? C'est une vertu cardinale qui nous fait rendre à chacun ce qui lui est dû. Bon, certes, on peut offenser le voisin, et même si on s'est accusé de cette offense contre le voisin en confessionnal, il faut réparer l'offense qui a été faite. Mais à chaque fois qu'on commet un péché, même un simple péché véniel, il y a quelqu'un d'autre qu'on offense, c'est le bon Dieu. Donc tout péché, quel qu'il soit, même un péché contre un péché personnel, un péché personnel, c'est une offense, même véniel, c'est une offense à notre Seigneur Jésus-Christ. On a offensé sa gloire, on a offensé sa divinité, et donc il y a une nécessité pour nous de réparer. Est-ce que je répare? Est-ce que je prends les moyens pour réparer l'offense que j'ai faite envers notre Seigneur Jésus-Christ? Ça, on n'y pense pas souvent. Heureusement, on pense à accuser parfois ses péchés, mais on ne pense pas toujours à réparer. Alors évidemment, c'est plus facile d'expliquer quand on a fait un vol, par exemple. C'est évident qu'il faut rendre le produit du vol. Quand on a détruit la réputation du voisin, bon, ben, il faut réparer cette réputation qu'on a détruite. Mais c'est la même chose avec le bon Dieu. Quand j'ai détruit d'une certaine façon la réputation du bon Dieu en attaquant sa divinité d'une certaine façon, eh bien il faut que je répare. Et donc pensons à toutes ces réparations. Vous voyez, à ce moment-là, si j'ai dans mon cœur justement ces trois éléments donc, que je viens de vous expliquer, à savoir la douleur de mes péchés, le ferme propos et la réparation, à ce moment-là, j'ouvre la porte de la miséricorde du bon Dieu peut s'exercer. Mais il ne faut pas croire que la miséricorde du bon Dieu s'exerce sans qu'il y ait des conditions qui doivent être remplies par la personne qui doit user cette miséricorde. Et là, on voit très bien ce qui se passe dans l'église de Vatican II, où ils ont complètement transformé cette doctrine en disant que le bon Dieu plein de miséricorde. C'est vrai que le bon Dieu plein de miséricorde, mais pas de façon inconditionnelle. Pas n'importe comment. Sinon, ce serait de la justice. C'est que la miséricorde du bon Dieu ne peut pas être détachée de sa justice. Et c'est un des crimes de Vatican II, d'avoir séparé la miséricorde de la justice. On s'est fait une autre façon d'expliquer ça. J'aimais bien son explication. Il disait, le crime de Vatican II, c'est d'avoir fait sauter le don du Saint-Esprit de crainte de Dieu. On ne craint plus notre Seigneur. Et si on ne craint plus notre Seigneur, on ne l'aime plus. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'avoir peur d'offenser Dieu. Si un époux ou une épouse n'ont pas la crainte d'offenser leur conjoint, ça prouve qu'il n'y a plus d'amour. Et donc, il ne faut pas simplement éviter d'offenser le conjoint, mais de prendre les moyens pour éviter d'arriver à se retrouver dans une situation où je pourrais peut-être offenser mon conjoint. À ce moment-là, l'amour demeure. Et comme il faut, comme il est important justement de méditer toutes ces choses-là pour justement utiliser à bon escient la miséricorde infinie du bon Dieu. C'est pour cela, on le voit très bien dans les exercices de Saint Ignace, qu'on ne fait pas les confessions générales tout à fait au début de la retraite, on attend un minimum. Père Valéry, il disait, je ne sais pas comment convertir quelqu'un en moins de 2 jours et demi. Il avait raison. Donc on commence par expliquer le pourquoi de la vie. Je suis sur la terre, pourquoi? Ben pour louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme. Et puis il y a l'obstacle. L'obstacle, c'est le péché. Donc on commence à expliquer les gravités du péché. Pour faire comprendre la gravité du péché, bon, on donne les exemples du péché des anges, du péché d'Adam et Ève. Puis après, on médite sur les conséquences du péché, la mort, le jugement particulier, le jugement général, l'enfer, la peine d'essence, la peine des dents. Et à ce moment-là, ayant terminé toute cette préparation, on peut commencer à entendre les confessions générales, mais on ne le fait pas au début. Parce que sinon, justement, on n'obtient pas cette... On ne peut pas utiliser la miséricorde du bon Dieu, parce que précisément, il manque quelque chose qui ouvre la porte de mon âme pour que je puisse utiliser la miséricorde du bon Dieu. La deuxième idée dans ce sermon, dans cet évangile, c'est la nécessité de la gratitude. Malheur au cœur ingrat. Et je pense que l'ingratitude est une caractéristique de ce monde moderne dans lequel on vit. L'ingratitude, et entre autres l'ingratitude par rapport aux anciens, c'est très net dans le monde moderne. Ce mépris des anciens, ce mépris de ceux du passé qui nous ont donné la vie, qui nous ont donné tout ce que nous avons, eh bien on méprise ces gens-là parce que la gratitude a complètement sauté. Et on le voit chez beaucoup de fidèles, c'est très fréquent, on prie que pour demander quelque chose. On se met à genoux devant le bon Dieu, on se met à genoux, et puis on dit, je veux ça, 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 ça et ça, et tout de suite. Et si je n'ai pas ça tout de suite, et comme je demande, ça ne va pas aller, je fais la tête. D'abord, quand on se présente devant le bon Dieu, en général, on commence par dire bonjour, il me semble. Hein? C'est comme un petit enfant qui a 5 ans, qui se lève et qui dit à maman, je veux petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on dit d'abord? Ah, bonjour maman. Et qu'est-ce qu'on fait? On embrasse maman. Et ensuite, on demande un petit déjeuner. Eh bien, c'est pareil avec le bon Dieu. Et donc, il faut savoir prier pour, je dirais, prier pour saluer le bon Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est tous ces petits mots qui ont complètement disparu. C'est pour ça que les gens ne savent plus prier. Pourquoi les gens ne savent plus prier? Parce qu'on n'apprend plus aux enfants à dire bonjour, bonsoir, bonne nuit, je vous demande pardon, etc. Tous ces petits mots magiques qui sont tellement importants dans la vie sociale. Et donc, il faut réapprendre à prier d'abord en adoration. On se met à genoux devant le bon Dieu pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ et le remercier pour toutes les grâces reçues. Et ensuite, on peut demander les grâces dont on a besoin. Vous avez peut-être commencé par suivre un ordre logique. D'abord, on adore, ensuite, on remercie. Je pense qu'on perd justement complètement cette notion d'action de grâce qu'on appelle la fin eucharistique. Remercier, savoir remercier. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Et souvent, nous ne savons pas remercier toutes les grâces que nous avons reçues. Regardez les grâces que vous et moi, on a reçues au niveau de la foi. Des gens à côté de nous qui n'ont jamais recevoir ces grâces. Pourquoi est-ce que le bon Dieu vous a choisi, vous et moi? Pourquoi est-ce que le bon Dieu vous a donné la grâce d'avoir compris un peu ce qui se passe? Pourquoi le bon Dieu vous a donné la grâce d'avoir conservé la foi catholique? Il y a des millions de personnes à côté qui vont la perdre, la foi catholique. Pourquoi eux, pas nous? Vous savez, c'est comprenez, moi je suis meilleur. Mais non. Parce que le bon Dieu vous aime d'une façon toute spéciale. Alors pourquoi est-ce que le bon Dieu m'aime d'une façon plus spéciale que les autres? C'est la bonne question. Il faut répondre à cette question pour pouvoir communier. Merci mon Dieu de m'avoir donné ces grâces spéciales. Merci mon Dieu de m'avoir donné ces lumières dont j'ai besoin pour découvrir la foi, pour conserver la foi. Quand on pense à tous ces gens qui vont passer 80, 90 ans sur la terre sans même savoir pourquoi ils y étaient. Et ils vont découvrir pourquoi ils étaient sur la terre le jour où ils vont passer devant mon Dieu. C'est un peu tard. Alors pensons à remercier, c'est cette nécessité de la gratitude. C'est le monde moderne considère que tout lui est dû. Le monde moderne, c'est ça. On a cette mentalité d'assister maintenant dans le monde moderne. Tout nous est dû. Je veux, je veux, je veux. Mais avant de dire je veux, il faudrait peut-être savoir ce que le bon Dieu lui-même nous demande. Toute la République qui nous entoure, laïque dans son essence même, est basée sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est quoi? C'est l'égoïsme de l'homme. Qui se tient devant Dieu et qui lui hurle à la face, je ne servirai pas. Le catholique, c'est quelqu'un qui met les droits de l'homme sous tout le tapis et qui, à la place des droits de l'homme, va étudier les droits de mon Créateur sur moi. Puisque je suis créature, Dieu a des droits sur moi. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce de comprendre ces deux points qui me sont tellement importants. Demandons la grâce de savoir vraiment regretter ses péchés, de savoir utiliser la miséricorde du bon Dieu, et pour utiliser cette miséricorde du bon Dieu, d'ouvrir la porte de mon âme en utilisant les choses que je viens de vous expliquer. Demandons la grâce de savoir remercier. Et à ce moment-là, le bon Dieu va nous donner les forces dont nous avons besoin, parce que nous sommes des soldats. Et c'est tout l'épître d'aujourd'hui, je ne veux pas rallonger trop ce sermon, mais cet épître magnifique de saint Paul qui nous rappelle que nous sommes des soldats, que nous devons nous revêtir de cette longue liste dans l'épître d'aujourd'hui. Je ne vais pas avoir le temps de tout expliquer, ce serait beaucoup trop long, mais saint Paul nous parle de l'armure de Dieu, des reins saints, des chaussures aux pieds, la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, du casque du salut, l'épée de l'esprit. C'est quoi tout ça? Et tout ça, c'est ce que Dieu donne à celui qui a rempli les conditions pour pouvoir utiliser sa miséricorde. Le bon Dieu, à ce moment-là, va donner à celui qui se bat, le chrétien est un combattant, le chrétien est un soldat, et saint Paul explique au début de son épître d'aujourd'hui qu'on ne se bat pas contre des choses matérielles, on se bat contre des esprits. Le démon, c'est un esprit, un pur esprit. Et le démon est un esprit malfaisant, un esprit qui cherche qu'une seule chose, c'est à détruire notre âme, donc il faut que j'utilise les armes du salut. Les armes offensives, les armes défensives, donc d'abord la prière, les sacrements, l'étude, toutes ces armes que nous connaissons bien, qui sont absolument nécessaires. Et encore une protection qu'il faut utiliser, peut-être la plus importante de toutes, c'est notre Sainte Vierge Marie. S'il y en a une qui avait compris de façon extraordinaire la miséricorde de son Fils, c'est elle. S'il y en a une qui avait compris de façon extraordinaire la nécessité de réparer le péché des hommes, c'est elle. Et pourtant, elle est innocente. Puisqu'elle est immaculée conception. Donc demandons à notre Sainte Vierge Marie de mettre dans nos cœurs, mes bien chers frères, mes bien chers amis, de mettre dans nos cœurs ce grand, grand désir d'utiliser la miséricorde du bon Dieu. Mais en même temps, ce désir de prendre les moyens pour ouvrir la porte. Si j'ouvre la porte de quelques centimètres, comment voulez-vous que le bon Dieu rentre? C'est ça le problème, c'est qu'on veut bien sanctifier, mais pas trop vite. À la rigueur, on veut bien un petit strapontin à l'entrée du paradis, mais il ne faut pas trop en demander. Et mon Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il travaille. Il demande tout. Il demande tout parce qu'il donne tout. Il demande tout parce qu'il est créateur, parce qu'il est rédempteur. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider non seulement à accepter cette doctrine de l'Église, que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est que le catéchisme, c'est tout. Non seulement à accepter cette doctrine de l'Église, mais à l'aimer. À l'aimer et à la faire aimer aux gens dont nous avons la charge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.